réplique, qui était le colonel Picard, avec Christian Vigouroux et Philippe Auriol. Un homme célèbre de son temps et quasi oublié d'une autre. Tel était, jusqu'à une date toute récente, la situation du colonel Picard. Il ne figurait plus sur la liste des héros de l'affaire Dreyfus retenus par la mémoire collective. Les noms de Bernard Lazare, tardivement reconnus à sa juste valeur, de Zola et de Clémenceau, avaient éclipsé le sien. Et on préférait s'intéresser à ceux qui se sont définis alors pour la première fois comme des intellectuels, plutôt qu'à ce soldat qui avait surmonté ses préjugés et son sens de la discipline par souci de la justice. Et voici que Picard revient dans la lumière, avec J'accuse, le film de Roman Polanski, qui lui rend un palpitant hommage, mais également avec le livre à charge de l'historien Philippe Auriol, Le faux ami du capitaine Dreyfus, Picard, l'affaire et ses mythes. Nous allons donc y regarder de plus près, en compagnie de Philippe Auriol lui-même et de Christian Vigouroux, auteur de Georges Picard, Dreyfusard proscrit, ministre, la justice par l'exactitude. Commençons par votre titre, Philippe Auriol. Pourquoi qualifier de faux ami l'homme qu'Alfred Dreyfus lui-même considérait comme le véritable auteur de la révision, dont, dans ses souvenirs sur l'affaire, Léon Blum écrivait que pour avoir dénoncé l'erreur de ses chefs, il avait connu la disgrâce, l'éloignement et la prison. Philippe Auriol.
En fait, le titre primitif qui était celui du livre et la première phrase qui ouvre le livre, c'est cette phrase de la marquise Arconati Visconti qui est le titre devait être Picard, celui qui n'a pas donné son nom à l'affaire. Le problème, c'est que ce titre est à peu près incompréhensible pour à peu près tout le monde, donc il n'était pas question de le garder. Donc on a pas mal réfléchi avec Charles Danzig et on est arrivé à ce titre-là qui, moi, me convenait finalement, mais naturellement, jamais il n'a été question dans ce livre de dire que Picard était un ami de Dreyfus et qu'en fait il aurait été un faux ami. L'idée, c'est de prendre le terme dans son sens le plus extensif, comme on pourrait dire un ami de Dreyfus, c'est-à-dire un soutien, un supporter, et puis peut-être aussi un petit jeu de mots sur ce qu'est un faux ami. C'est-à-dire quelque chose qui a l'air d'être et qui n'est pas. Donc voilà, l'idée était là. Mais l'idée n'était pas de faire un livre à charge. L'idée était tout simplement, et c'est une de mes préoccupations, moi, depuis très longtemps, de sortir d'une histoire mémorielle pour retourner vers une histoire historienne. Donc l'idée, c'était de présenter Picard tel qu'il me semble être, mais pas dans mes fantasmes, par rapport à, effectivement, la chronologie qu'il faut reprendre et regarder et qui est très enseignante, et aussi par rapport à un certain nombre de documents connus ou inconnu.
Ah, ce n'est pas un livre à charge, dites-vous, mais c'est un réquisitoire, c'est une démystification, c'est un déboulonnage. Alors vous écrivez, effectivement, vous citez au tout début de votre livre cette cinglante remarque de la marquise Arconati Visconti, celui qui n'a pas donné son nom à l'affaire, et ça me fait penser à une phrase de Peggy dans Notre jeunesse. Il y avait été très notamment deux affaires Dreyfus, celle qui était sortie de Bernard Lazare et celle qui était sortie du colonel Picard. Celle qui était sortie du colonel Picard était très bien, celle qui était sortie de Bernard Lazare était infinie. Et vous vous dites que ce très bien est de trop, parce que le colonel Picard ne mérite pas l'hommage qu'on lui a longtemps rendu et qui revient avec le film de Polanski. Philippe Auriol.
Oui, c'est pas exactement ce que je dis. En fait, ce que je dis déjà, c'est que Picard n'est pas, à mon sens, et toujours en me fondant sur les documents, l'homme qu'on a présenté. Et ce que j'essayais de montrer aussi, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est la mécanique de l'héroïsation. C'est-à-dire pourquoi, à un moment, stratégiquement pour les Dreyfusards, il était intéressant que Picard devienne un héros qui était probablement beaucoup plus porteur que ne pouvait l'être Dreyfus ou même Bernard Lazare, etc., etc.
Christian Vigouroux, vous n'êtes pas historien, Vous avez été conseiller d'État, vous avez été directeur de cabinet de deux ministres, et vous avez quand même choisi d'écrire un livre sur Picard, et de votre côté, c'était par admiration pour ce professionnel de l'exactitude, si j'ai bien compris, Christian Vigouroux.
Tout d'abord, je suis content qu'il y ait ce débat, parce que je l'attendais à peu près depuis 10 ans. Mon livre date de 2008. Mon objet en 2008, c'était de faire que Picard soit reconnu. Harris lit mon livre et le film se produit. Et notre débat aujourd'hui montre que je suis un peu arrivé à
Très bien. Entrons dans le vif du sujet. Selon vous, quel a été le rôle de Picard dans l'affaire ? Francis de Pressensé a dit... Il pouvait, au prix de son estime de soi-même, devenir quelque chose. Il préféra, au risque de perdre, être quelqu'un. Que s'est-il passé ? Qu'a fait le colonel Picard pendant l'affaire ? Christian Vigouroux.
On ne peut pas parler de l'affaire sans Picard. Mais c'est un soldat. Et c'est ça le point extraordinaire dans cette affaire qui m'a intéressé. Moi qui travaille sur les fonctionnaires civils et militaires depuis longtemps, c'est celui qu'on n'attendait pas. Parce que la caste des généraux, c'est comme un train lancé à vive allure, un train blindé de préférence, et qui voit des cris ailleurs, d'abord la famille Dreyfus qui crie des cris de détresse et d'injustice, de révolte à la raison, et puis tous ceux qui l'ont soutenu, Bernard Lazare en premier, et le train fonce. Mais ils ont pensé à tous les généraux, sauf que un passager du train pouvait avoir mis une poutre sur le rail. Voilà ce qu'est Picard.
Alors, cette poutre sur le rail, ça a été quoi exactement, Christian Vigouroux ?
Eh bien, ça a été que la caste des généraux estimait que Dreyfus, ayant été jugé dans les conditions que l'on sait contraires au droit, mais que l'affaire était terminée, on avait même fait une loi pour le mettre en détention en Guyane, ce qu'on pouvait pas avant, méfions-nous toujours des lois individuelles. Et c'était terminé. Et puis, pour faire simple, Picard est nommé chef des services secrets et, dans le cadre de ses fonctions, trouve un papier qui montre que c'est pas Dreyfus qui avait trahi, c'est Esterhazy.
Le fameux petit bleu.
Le petit bleu qui est un télégramme qui devait être rédigé par l'attaché militaire allemand au traître, et l'adresse portait Esterhazy. Donc, Picard est celui qui, à partir de là, va contribuer de l'intérieur, ce qui est tout autre chose que de militer en fraternité avec Dreyfus ou parmi les intellectuels. Mais de l'intérieur de l'appareil d'État, il va établir cette preuve brûlante, et c'est très intéressant, je décris ça dans mon livre, comment l'appareil d'État essaie, par tous les moyens, ça, c'est éternel, ça vaut de tous les temps, essayer de le détruire.
Alors, vous êtes d'accord au moins avec cette présentation, Philippe Auriol ?
Déjà, sur la question de l'oubli, il y a quelque chose d'intéressant à dire, parce que justement, il y a un autre oublié qui est tout à fait passionnant et qui, à mon avis, sans commettre, effectivement, parce que j'ai lu une interview dans laquelle vous en parliez, sans commettre d'anachronisme, on a là un véritable lanceur d'alerte, c'est que bien avant Picard, il y a un militaire qui s'appelle Fort Zinetti, qui lui est vraiment un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il va découvrir, c'est celui qui est chargé en fait de garder Dreyfus dans sa prison, qui va s'apercevoir qu'effectivement Dreyfus est innocent parce qu'il a l'habitude d'avoir des prévenus en fait sous sa garde, et il en est absolument persuadé. Et il va être un lanceur d'alerte parce qu'il va aller voir sa hiérarchie, il va en parler, il va même en parler au ministre, il va transmettre à la famille Dreyfus, que Picard a toujours refusé de faire, un certain nombre de documents qui va permettre à Bernard Lazare de faire sa brochure. Voilà. Là, on a un vrai premier lanceur d'alerte à mon point de vue. Maintenant, là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur Vigouroux, même si effectivement nous sommes d'accord sur quelque chose qui est clair, c'est que le petit bleu a été découvert par Picard et n'a été découvert par personne d'autre.
C'est quand même très important parce que Picard a reconnu l'identité des écritures du petit bleu et du bordereau qu'il avait sa possession. Alors, au service de statistiques. Et lui-même avait assisté à la dégradation de Dreyfus, tout à fait convaincu de sa culpabilité. Donc c'est un moment incroyable pour lui. Alors, la vérité lui saute aux yeux, et à ce moment-là, en dépit de son sens de la discipline et de ses préjugés, il fait tout pour prévenir la hiérarchie militaire.
Alors, déjà, il va découvrir effectivement, alors pas le petit bleu, parce que le petit bleu est d'une autre écriture, mais l'identité d'écriture entre le bordereau et un certain nombre de pièces qui sont des pièces d'écriture d'Esterhazy. Et là, il s'aperçoit de la chose. Ce qui est intéressant d'ailleurs, et Picard le raconte lui-même, c'est que pendant très longtemps, Il va être absolument persuadé, non pas que Dreyfus est innocent et Esterházy est coupable, mais que les deux hommes sont complices, parce qu'il n'est pas question de revenir en fait sur cette chose jugée. D'autant plus que l'affaire n'est pas terminée, Monsieur Vigouroux, à ce moment-là, puisque la première chose qu'on demande à Picard quand il prend la section de statistiques, c'est de continuer à nourrir le dossier de Dreyfus. Donc en fait, on l'encourage à faire ça. Et ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où il va découvrir cette identité, vous avez raison, Monsieur Finkielkraut, il va en parler à ses chefs. Mais il va en parler à ses chefs en continuant à nourrir le dossier de l'autre côté, et surtout, il va en parler à ses chefs sans jamais aller au-delà du lancement d'alerte, en fait. C'est-à-dire qu'il en parle à ses chefs ne vont pas vouloir. Et pourquoi? Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont tous compromis, en fait, dans le procès de 1894. Ils ne lui donnent pas la solution, donc lui va continuer de son côté à rassembler des informations, mais ne va jamais les sortir à partir du moment, et d'ailleurs il le dit lui-même au procès Zola, si on m'avait dit de me taire, je me serais tue. Si on m'avait dit d'arrêter, je me serais arrêté.
Christian Vigouroux.
Moi, je me méfie des transformations chronologiques avec les lanceurs d'alerte. Ouais. Mais je rejoins tout à fait Philippe Auriol sur le salut à Forzinetti. Simplement, chacun est là où il est. Forzinetti, c'est un dirigeant de prison. C'est pas moi qui est ancien directeur de cabinet du garde des Sceaux qui vais mépriser ce rôle. Mmh. C'était très important. Et il le faisait dans l'honneur. Et il a senti, il a perçu la détresse de Dreyfus. Il avait aucune preuve. C'est tout autre chose. Je hiérarchise pas. C'est tout autre chose que Picard qui, parce qu'il était chef des services secrets, avait les moyens d'apporter une preuve. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que je voudrais insister sur un point. Moi qui ai pratiqué un peu ces services secrets, c'est que qu'est-ce qu'il pouvait faire, Picard? C'est un miracle qu'on ne soit pas tombé sur un médiocre qui, trouvant les similitudes, ben fasse quoi? Prenne son briquet et les détruise. Et continue sa carrière normale. Moi, j'en connais des gens qui auraient fait ça. C'est là que mon intérêt pour Picard est grand, parce que il n'a pas détruit la pièce, il ne l'a pas cachée, il ne l'a pas mis au coffre-fort en disant un jour je en ferai quelque chose, et il est monté voir sa hiérarchie. Et dans un appareil militaro-renseignement, monter voir sa hiérarchie, il vaut mieux y aller dans ce cas-là avec un gilet blindé.
Oui, alors justement, je voudrais aussi dire quelques mots en faveur du colonel Picard, dont j'avoue que la personnalité m'a toujours fasciné, un antisémite, réputé tel, qui choisit de défendre Dreyfus et qui apporte la preuve de son innocence, c'est une trajectoire que j'ai pensé extraordinaire. Il est vrai, il va voir sa hiérarchie. Et il écrit d'abord au général Gons. Vous citez cette lettre dans votre livre, Philippe Auriol. Et il l'alerte en disant « Je crois avoir fait le nécessaire pour que l'initiative vienne de nous. » Il s'inquiète d'un scandale qui pourrait éclater hors de l'armée et endommager, ébranler cette institution qu'il veut à tout prix défendre. Ensuite, vous citez ce dialogue incroyable avec le général Gons, un dialogue d'ailleurs reproduit dans le film de Polanski, que vous citez aussi, Christian Vigouroux. Eh bien voyons, lui dit le général, qu'est-ce que cela vous fait que ce juif soit à l'île du diable? Mais puisqu'il est innocent, comment voulez-vous revenir sur le procès? Ce serait une erreur épouvantable. Le général Mercier, le général Saussier, qui sont engagés là-dedans, mon général, il est innocent, cela va suffire pour revenir là-dessus. Mais un autre point de vue, vous savez que la famille travaille, qu'elle cherche partout le vrai coupable. Si elle le trouve, quelle sera, pensez-vous, notre posture? Et réponse de Gons, si vous ne dites rien, personne ne le saura. Mon général, ce que vous dites est abominable. Je ne sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, je n'emporterai pas ce secret dans la tombe. On a l'impression que le colonel Picard, à ce moment-là, a deux obsessions. En effet, que l'innocence de Dreyfus soit reconnue, mais qu'elle soit reconnue dans l'armée ou par l'armée, parce qu'il tient à cette institution, parce qu'il considère qu'il est très important de la défendre, et je ne vois pas ce que ce comportement a de répréhensible, Philippe Auriol.
Non, mais il n'a rien de répréhensible. Il y a juste la question de choisir de défendre Dreyfus, qui est quelque chose qu'on peut discuter à ce moment-là. En fait, Picard, en parallèle, c'est ce que je raconte dans le livre, fait surveiller ce qu'il appelle la société juive, et qu'il appelle aussi parfois ces gens-là. Et en fait, il s'est aperçu que la famille Dreyfus, mais pas que la famille Dreyfus, Bernard Lazare, entre autres, qu'il fait suivre, sont en train de monter un dossier, qui est un dossier qui peut-être va donner les preuves de l'innocence de Dreyfus. Son idée, c'est ce que vous venez de dire, et vous avez tout à fait raison, c'est effectivement de prévenir ses chefs pour que ses chefs soient ceux qui vont effectivement dire la réalité, ce qui va permettre à l'armée de sortir blanchie de cette affaire. Bon, ça c'est une certitude. Ce qui est intéressant dans le dialogue que vous avez cité tout à l'heure avec Gonz, c'est que ça c'est la version qu'on donne toujours, qui est la version très postérieure qui a été donnée par Picard à partir du moment où effectivement il a intégré le costume du héros. La toute première version dans un manuscrit inédit que j'ai retrouvé il y a peu de temps, qui est une version de juillet 98, ne dit pas exactement la même chose. Gonz, un moment, lui demande « Mais vous ne direz rien, n'est-ce pas ?» Et il répond « Je ne puis pas. Mais je ne sais pas ce que je ferai, mais je n'emporterai pas ce secret dans la tombe. » Et à mon avis, cette modification, elle est absolument essentielle, parce que c'est ce qui va se passer. Picard, effectivement, a son secret, on va l'envoyer en Tunisie, parce qu'en fait, c'est pas ce moment-là qui est important. Ce moment-là, il est tout à fait admirable, on est bien d'accord. C'est ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire que là, nous sommes en septembre, octobre, novembre 1896, et Picard ne va réellement parler qu'à partir de juillet 1898, c'est-à-dire quasiment 2 ans après. Et quand il sera en Tunisie, justement, il ne fera rien. C'est-à-dire que là, il aurait pu, on va continuer avec cet anachronisme insupportable, mais il est beaucoup plus simple à entendre, il aurait pu à ce moment-là lancer l'alerte, et il ne lance pas l'alerte. Et c'est un concours de circonstances qui va faire que. Et il ne dit rien.
Christian Vigouroux, votre réponse.
Je pense que c'est méconnaître ce qu'est un service secret. Picard est un bon élève. Là, Philippe Rolle le dit bien après moi. Picard est un bon élève, le plus jeune lieutenant-colonel de sa génération. On ne met pas n'importe qui à la tête des services secrets militaires quelques années avant la guerre de 14. Donc il est cajolé, il est suivi, il est connu. Et donc pour lui, c'est un déchirement d'aller voir sa hiérarchie. Il se dit, est-ce que ça va pas tuer ma carrière? Parce qu'il est très attentif à sa carrière, je le décris. Et il se dit, comment va ma hiérarchie, va-t-elle prendre les choses? Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Philippe Aurel quand il dit, Picard n'a parlé qu'en 98. Il aurait pu se taire vis-à-vis de sa hiérarchie. Il y va. Et il est, comme c'est quelqu'un de très intelligent, il comprend aussitôt qu'il met un pas là où il n'aurait pas dû. Sa notation, c'est tout à fait saisissant. J'ai publié en 2008 la notation de Picard avant qu'il aille voir sa hiérarchie. Et puis, la notation après. C'est le même signataire à 6 mois d'intervalle. Avant qu'il aille voir sa hiérarchie, officier extraordinaire, appelé aux plus hautes destinées, etc. 6 mois plus tard, le même signataire, officier un peu nerveux, qui se laisse dépasser, qui ferait bien de retrouver la troupe. Il est cassé. Et donc, il le sent. Et il aurait pu se taire. Moi, j'appelle se taire, détruire la preuve et préserver sa carrière. Il a commencé à en parler à sa hiérarchie dès septembre 96. Et puis ensuite, il y a l'année 97 où il est blackboulé, il est envoyé en Tunisie, etc. Mais au milieu de 97, il parle à son vieil ami Le Blois. Et moi, j'ai appris quand j'étais directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur que quand un secret dépasse 2 personnes, ça n'est plus un secret.
Oui, simplement, il demande à Le Blois de garder le secret,
oui.
Et Le Blois connaît Scherer Kestner,
oui.
Le président du Sénat, je crois,
oui.
qui est favorable à Dreyfus, et il lui confie ce secret en lui disant qu'en même temps, il ne peut pas le trahir. Donc les deux se sentent bloqués, et on peut penser que ça a retardé, si vous voulez, l'éclatement de la vérité. Alors pourquoi Picard a-t-il voulu confier sous le sceau du secret, ce qu'il savait à Le Blois? Il l'a fait parce que il pensait que sa vie même était menacée, mais pourquoi lui dire cela? Pourquoi cette condition imposée à Le Blois, selon vous, Christian Vigouroux?
Parce qu'il a cru un moment qu'il y avait un espoir dans la hiérarchie.
Ah, toujours,
il pensait lui rendre service en disant, mais saisissez-vous de cette erreur. Mais très vite, il a compris que c'était pas possible. Et ne voulant pas casser le lien avec l'armée, qui était toute sa vie, il a posé cette condition à Le Blois. Mais Le Blois s'en est affranchi en parlant à Scherer Kestner. Scherer Kestner est allé voir le président de la République, le ministre, la nouvelle sans la preuve, parce que ça, il n'avait pas autorisé de donner la preuve, mais il a mobilisé Scherer Kestner, et l'année 97 a été une année de mine creusée sur la fausse vérité des généraux.
Ah, oui, enfin,
Philippe Auriol.
On comprend bien une chose, hein, c'est qu'il n'est pas question du tout de discuter ce qu'il y a d'héroïque, effectivement, parce que j'en suis absolument persuadé, dans le fait de transmettre l'information à sa hiérarchie et d'essayer d'arranger la chose. Que ce soit pour Dreyfus ou pour l'honneur de l'armée, n'y change rien, en fait, on est bien d'accord. En revanche, le problème, c'est juste après, c'est sur la question Le Blois, parce que, et là, je réponds à la question que vous posez, c'est-à-dire que il va voir le Blois, clairement, et encore, c'est quelque chose qu'on peut comprendre très bien. De toute façon, moi, je ne juge pas, je comprends, et je trouve même que l'homme, dans tout ce qu'il a d'ambivalent, est 10 fois plus intéressant que le chevalier blanc. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand il va voir le Blois, en fait, et ce serait intéressant, d'ailleurs, si on a le temps, on en parlera du pourquoi est-ce qu'à un moment, il décide d'aller voir le Blois. Parce qu'il y a 2 voyages à Paris. Il y en a un dont on parle jamais. Et là, il va voir absolument personne, parce qu'il est toujours pas question qu'il parle. Quand il va voir le Blois, en fait, il lui dit juste, il a peur pour lui, mais il a pas peur qu'on le tue et tout, parce que l'histoire d'être envoyé sur la frontière tripolitaine, c'est une fable absolue. Là, on a tous les papiers, je les ai avec moi d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai tous les rapports. Voilà. Donc ça, c'est une fable. Mais peu importe. Mais ça fait partie aussi de l'héroïsation et de la mécanique de l'héroïsation, parce que faut qu'il soit mis en danger pour que. Et, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand il va voir le Blois, il lui dit, voilà, j'ai peur pour moi et tu n'agiras que si jamais ma vie est en danger. Et à côté de ça, il ne lui donne aucun document. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les correspondances que j'ai retrouvées, à travers lesquelles il empêche en fait le Blois de pouvoir agir. Et là, on a toutes ces discussions que je raconte absolument incroyables entre le Blois et Scherer Kestner, et Scherer Kestner qui devient ridicule parce qu'en fait, il dit qu'il sait, mais il ne peut pas montrer parce que le Blois lui dit oui et puis non et tout. Pourquoi ? Parce que le Blois a fait une bêtise en fait, mais je le comprends. Moi, si on me confie ce secret-là, qu'il y a quelqu'un qui est en prison et qui est innocent et qu'on me demande de ne pas le dire, je ne pourrais pas garder ce secret. J'en parlerai, c'est une certitude. Et c'est ce que fait le Blois et on l'imagine bien. Le problème, c'est qu'il n'a aucune arme. Et c'est ce que dit Reynac. Comment aller au combat quand on laisse les armes au râtelier. Et Picard empêche, en plus, puisqu'il refuse absolument que les documents soient emportés, et voire même, il demande aux Dreyfusards, via le Blois, de ne pas attaquer les militaires, Henri, etc. Pourquoi ? Parce qu'il espère, parce qu'on lui en a fait la promesse, qu'il pourrait retrouver son poste.
Oui, alors, vous dites tout cela, mais pourquoi, à son retour de ses missions en Tunisie, Picard est-il arrêté et mis en prison? Un homme qui décide de garder le silence, un homme qui veut protéger sa hiérarchie, devrait être, en toute logique, protégé par elle. Or, il se retrouve au Mont Valérien.
Là,
pourquoi?
Moi, je voudrais faire une remarque répondante à Philippe Auriol, qui dit, avec un élan que je salue, j'espère que j'aurai le même courage, si j'avais été dans la situation, j'aurais... Mais Monsieur Auriol n'était pas tenu au secret défense. Là, nous avons un chef espion qui sait très bien que s'il parle, il aura des malheurs. Et le malheur, c'est plus d'un an de prison, arrêt de forteresse d'abord, et ensuite prison sans jugement, pour trahison du secret militaire.
Parce qu'on sait que que le Blois avait parlé, c'est ça?
Eh ben, il n'y a pas 50 personnes qui peuvent parler d'Esterhazy.
Ah,
il est surveillé, il est écouté, il est perquisitionné. On sait minute par minute ce qu'il fait parce que l'armée veut l'empêcher de parler. Et quand vous voulez empêcher quelqu'un de parler, je vous donne la recette. Soit vous lui faites peur, soit vous voulez le séduire. Eh bien, l'armée a fait les deux choses vis-à-vis de Picard. Là, je rejoins Philippe Aurore. On l'a envoyé des amis pour dire, écoute, tu sais, on tient à toi, tu seras pas où oublié. Et on l'a menacé, la Tripolitaine. J'espère que ça vous arrivera jamais d'être nommé au fond d'une zone hostile. Mais je suis beaucoup plus prudent sur c'est une fable. Mais il a été cassé, chassé de son poste, envoyé dans des missions ridicules, envoyé au fond de la Tunisie. Et donc, il a pris une assurance vie et une assurance sur l'avenir. Et parce qu'il n'a pas détruit la preuve et il a voulu qu'elle soit un jour utilisée.
Oui, mais ce qui est intéressant à côté, c'est que du coup, cette preuve-là, qui a une importance capitale, puisque lors de la première et de la deuxième révision, effectivement, on aura ce papier à partir duquel on pourra discuter, même si effectivement, c'est pas une preuve, en fait. C'est-à-dire que c'est juste un indice très très fort, quoi. Mais c'est pas une preuve en soi, puisque dans le dossier contre Esterhazy à ce moment-là, il y a très très peu de choses, en fait. Et il y a aussi très peu de choses parce que l'état-major a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait très très peu de choses. Mais ce qui est absolument intéressant, c'est que Picard, en fait, c'est le reproche que lui fait Clémenceau dans l'article que je cite en 98, en disant qu'à partir du moment, en fait, il avance et il recule. À partir du moment où il donne les documents à Le Blois, soit il ne les lui donne pas, soit il les lui donne. S'il les donne en disant effectivement qu'il ne peut pas les utiliser, ça pose un problème. Et la découverte d'Esterhazy ne va jamais être faite grâce à la découverte de Picard, puisque la première chose que Picard interdit à Le Blois, c'est que si jamais un jour lui est menacé, il doit en parler à des hommes politiques, mais jamais à la famille de Dreyfus et surtout pas à la famille Dreyfus. Et la famille Dreyfus va découvrir Esterhazy par une autre voie qui est absolument parallèle et qui fait que si Picard n'avait pas fait sa découverte, la famille Dreyfus aurait quand même, elle, fait sa découverte.
Mais pourquoi?
En revanche, si Picard, je suis désolé, avait parlé avant et avait permis de transmettre, même si effectivement, ancien chef d'un service de renseignement, il n'a pas le droit de le faire, mais il est engagé là dans une voie qui est une voie de laquelle il est difficile de revenir, etc. S'il avait transmis les documents, l'affaire Dreyfus, alors on fait pas de l'histoire fiction, mais aurait connu nécessairement autre chose puisque l'état-major n'aurait pas pu s'organiser. Et l'état-major peut s'organiser parce que Le Blois a fait la bêtise, en fait, même si elle est admirable, de parler alors qu'il ne devait pas le faire.
Alors pourquoi Picard ne voulait-il pas que la famille Dreyfus soit mise au courant, selon vous, Philippe Auriol?
Effectivement, parce que c'est un militaire et qu'il est tant qu'il porte l'uniforme, et c'est ça cette phrase quand il dit « pour l'instant je ne le puis pas à Gonse », c'est-à-dire que tant qu'il portera l'uniforme, il ne fera rien, et c'est le cas. Parce qu'effectivement, lors des procès, vous disiez qu'il est arrêté, mais il est arrêté en janvier, le 13 janvier 98, le jour où Paris j'accuse.
Le jour où j'accuse, oui.
Okay, et il arrive à Paris en novembre. Pendant tout ce temps-là, il va être auditionné, etc. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est de transformer le procès Esterhazy en futur procès Picard. On est bien d'accord, il sera arrêté à ce moment-là. Mais et là, dans le film de Polanski, c'est très intéressant, parce qu'on a inventé une scène absolument formidable pour arriver, en fait, à montrer... C'est-à-dire que ce qui est tout à fait étonnant, c'est que pour montrer Picard comme le lanceur d'alerte, il faut effectivement arriver à créer des scènes qui n'existent pas. Comme on en reparlera, la scène chez Depailleux, qui est rigoureusement impossible.
Et c'est quoi cette scène?
En fait, cette scène, si vous voyez le film, à un moment, vous verrez, il est auditionné par Depailleux et il quitte avec fracas parce qu'il trouve que tout ça est un scandaleux dans la manière dont c'est monté, etc. En fait, pas du tout. Il a été auditionné 3 fois. Pendant ces 3 fois, il s'est très très bien tenu. On connaissait pas les textes jusqu'à présent. Ils étaient inédits. Je les ai publiés il y a quelques semaines là sur le blog de la CIAD. C'est tout à fait intéressant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comme au procès Zola, c'est que quand on lui pose une question qui est une question qui pourrait dire la vérité, à chaque fois, il la ferme et il renvoie même vers Henri pour que Henri donne la réponse en sachant très bien qu'Henri va donner une réponse qui est une fausse réponse.
Alors, c'est une pratique d'interprétation de soustraction qui ferait presque qu'on serait étonné de trouver un personnage qui traverse par hasard l'affaire Dreyfus et qui s'appelle Picard. Je crois que on peut pas opposer, comme vient de le faire Philippe Auriol, donner à Le Blois ou non. Si Picard avait voulu ne jouer aucun rôle et laisser Dreyfus dans l'injustice qu'il avait frappé, il suffisait de ne parler à personne, je l'ai dit. Il a parlé à Le Blois, en sachant que Le Blois était un avocat, un protestant, un militant, un démocrate, et donc il savait que l'affaire allait s'élargir. D'ailleurs, quand la famille Dreyfus, par les voix que j'ai décrites, et Philippe Auriol aussi, et d'autres, découvre l'existence d'Esterhazy, eh ben il y a la sorte de convergence. Mathieu Dreyfus va voir Scherer Kössner et lui demande c'est Esterhazy, et Dreyfus, dans ses mémoires, raconte que Scherer Kössner répond oui. Et moi, je suis pas pour une des interprétations de soustraction. Je suis pour une des interprétations d'addition. Et Picard a joué son rôle, ne serait-ce que pour confirmer cette convergence. Je pense que l'affaire Dreyfus n'aurait pas été la même. Et moi, je fais pas une autre affaire Dreyfus si Picard, là où il est, n'avait pas joué ce rôle qui taraudait le bel édifice des militaires.
Alors, j'ajoute que donc Picard est emprisonné le 13 janvier 1898. Le même jour, le jour où Paris j'accuse, le procès Zola a lieu dans la foulée, en février, je crois. Il témoigne, vous le dites. Mais il se passe quelque chose aussi, quand même. Le 7 juillet, je crois, Cavaignac, nouveau ministre de la guerre, monte à la tribune. Et à la tribune, il dit, ça suffit, j'ai des preuves. Et la chambre est unanime. Et comme Léon Blum le raconte dans ses souvenirs sur l'affaire, les Dreyfusards, à ce moment-là, prennent un coup sur la tête. Ils sont désespérés. Léon Blum parle du rôle qu'a joué Jaurès, avec la publication des preuves, dans la foulée, de son livre Les Preuves. Mais moi, je pense à Picard, encore une fois. C'est-à-dire le 9 juillet, Picard, qui donc a été mis en réforme, et donc se sent sans doute délié du secret, mais qui est en prison, eh bien, il rend public une lettre au président du Conseil, en lui disant que le ministre de la Guerre a cité des documents et j'ai le devoir de vous faire connaître que je suis en état d'établir devant toute juridiction compétente que les deux pièces qui portent la date de 1894 ont tous les caractères d'un faux. Et à ce moment-là, je crois, Picard est transféré à la santé.
Oui.
C'est-à-dire que sa situation même de détenu s'aggrave. Bon, ben là, c'est quoi, le mot lanceur d'alerte, je sais pas, mais là, quand même, il prend position et il joue un rôle absolument capital. C'est d'ailleurs lui qui va être le premier à dénoncer le faux Henri. Ce faux qu'on appellera le faux patriotique. Et
c'est l'objet de la lettre que vous citez, mais justement, moi, c'est ce que j'explique dans le livre. Je dis pas autre chose que ce que vous êtes en train de dire. Alors déjà, le discours de Cavaignac, où effectivement les preuves, les pseudo-preuves de la culpabilité de Dreyfus sont données. En fait, Blum raconte ça, mais Blum raconte ça en fait avec une vision qui est un peu transformée, parce que quand on regarde en fait les documents de l'époque, les Dreyfusards sont très contents de ce discours. Ils sont pas du tout désespérés, au contraire. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'un ministre de la guerre parle. Le précédent, qui était Billot sous le gouvernement Méline, ne parlait pas. Et en fait, tant qu'on parle pas, on peut pas discuter. Là, il donne les documents. Donc en fait, il donne la possibilité, il ouvre le débat en fait, et il donne la possibilité de dire qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça c'est la première chose qui est importante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, et c'est ce que je raconte dans le livre, parce que pour moi, le moment où Picard devient le véritable héros, c'est justement le 9 juillet avec cette lettre. Reynac, en fait, l'encourage, et Reynac le raconte très très tranquillement, encourage Picard, qui n'est pas en prison d'ailleurs à ce moment-là, hein. Il est libre depuis quelques semaines, et il va se faire arrêter quelques jours après à nouveau, voilà, puisqu'il a été mis en réforme. Et là, en fait, le lieutenant-colonel Picard n'existe plus à ce moment-là. Il a été mis en réforme. C'est Monsieur Picard. Et Monsieur Picard passe à l'action parce qu'effectivement, il n'a plus son uniforme. Et là, il peut, entre sa conscience et son uniforme, faire un choix, puisqu'en fait, il n'y a plus de choix à faire. Et l'autre chose qui est très intéressante, et c'est dommage que dans le film, on n'ait pas eu ces informations quand les gens ont travaillé justement sur le scénario, c'est l'affaire Pauline Monnier. C'est-à-dire que c'est le moment où l'armée commence aussi à attaquer Pauline Monnier, qui est sa maîtresse.
Sa maîtresse, oui.
Voilà. Et où là, et il est très sensible sur ce sujet, puisque c'est Pauline Monnier qui déclenche tout, en fait. Et c'est le moment où, effectivement, là, il décide de réellement passer à l'action. Mais avant ça, en fait, par exemple, au procès Zola, il se tait. Et dès qu'il devient monsieur, c'est ce que je montre, et qu'il est entendu par Bartulus, là, pour la première fois, il dit les choses.
Christian Rigaud.
Je crois qu'il faut bien se rendre compte, comme il fallait se rendre compte que c'est un chef de service secret et pas un quidam, c'est qu'il va faire plus d'un an de prison, arrêt de forteresse, puis prison civile, après une procédure de règlement de juge qui est une technique qui permettait de le faire échapper à la justice militaire. Et au procès Zola, Philippe Auriol lui met une note, comme en ferait un professeur, en reprenant un mot de Jaurès, réserve timide de Zola au procès
de Picard
au procès Zola. C'est tiré d'une phrase où Jaurès dit il sera absolument formidable plus tard, et alors que au procès Zola, il est en réserve timide. Au procès Zola, il est tiré tous les jours de sa prison. C'est un petit détail dont il faut se souvenir. Il a été frappé sans aucun jugement, il ne sait pas ce qu'il va devenir, il est réformé, chassé de l'armée, il est insulté, poursuivi, on essaie de télescoper sa vie privée. J'ai retrouvé, et Philippe Auriol les a cités après moi, les bulletins de renseignements généraux qui suivaient la maîtresse jusqu'au bois de Boulogne. On n'imagine pas, moi qui suis un peu un technicien de ça, les dizaines d'agents de sécurité qui ont été mis sur Picard. Alors, si c'était simplement un passant dépassé par les événements, je me dis que la police de l'époque n'est pas très regardante sur les moyens.
Alors Philippe Auriol, c'est intéressant parce que effectivement, Picard choisit de parler à un moment décisif. Il est le premier, encore une fois, à dénoncer le faux Henri. Et à ce moment-là, vous commencez, après lui avoir fait grief de sa timidité, à lui reprocher son intransigeance. En effet, il est dans le camp des Dreyfusards radicaux, il témoigne au procès de Rennes, quand effectivement, après le suicide d'Henri, Dreyfus est rapatrié en France, et au moment où Dreyfus accepte la grâce, comme Clémenceau d'ailleurs, il lui en veut. Il dit, non, la cause de Dreyfus mérite mieux. Et vous dites, vous dites, il va trop loin. Donc, c'est étonnant de voir, sous votre plume, ces deux reproches successifs. Et à chaque fois, vous dites, c'est jamais vraiment Dreyfus qui défend. C'est toujours autre chose. Alors, expliquez-moi, ouais, alors, je veux comprendre, Philippe Auriol.
Je ne sais pas si j'ai écrit qu'il allait trop loin, parce que moi, je ne pense pas avoir fait ça, mais peut-être.
Non, vous dites quand même qu'il est très intransigeant et que...
Ah oui, il est vraiment...
Et vous étonnez de ce basculement, de cette radicalisation.
Je ne m'étonne pas du tout, je la constate et puis j'essaye de l'expliquer. Mais je la constate avant tout, et ce n'est pas un reproche, c'est-à-dire que c'est aussi l'effet. Le camp Dreyfusard s'est coupé en deux. Ça, on le sait, et c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, parce que moi, la première fois que j'en ai parlé, c'est en 1998, quand j'ai réédité les carnets de Dreyfus. Il en est question dans le Lazare que j'ai fait, etc., etc., puisque c'est un événement qui est réellement central et qui permet de comprendre beaucoup de choses. Cette rupture, elle peut s'expliquer par énormément de choses, et entre autres par la question antisémitique, mais pas uniquement. Moi, ce que je constate à ce moment-là, c'est qu'effectivement, cette intransigeance va aussi, encore une fois, bloquer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que Picard part du principe en fait que la seule stratégie qui est possible de suivre est celle qu'il a déterminée, avec ce problème qui se pose, c'est que quand Dreyfus était à l'île du diable, Dreyfus n'avait pas la parole. À partir du moment où Dreyfus est gracié et qu'il se bat effectivement pour recouvrer son honneur, c'est lui qui mène le combat. Et en fait, Picard n'accepte pas ce qu'il appelle la pusillanimité de ses juifs. C'est-à-dire qu'il trouve qu'effectivement, ils ne sont pas assez rapides et ils ne vont pas assez loin. Et la plupart du temps, d'ailleurs, quand on regarde les faits que je montre, ils se trompent. Parce que, par exemple, sur l'histoire, Esterhazy, à un moment, va faire des confessions qu'on connaît depuis très longtemps sur le fait qu'il a écrit le bordereau sur ordre, qui est une fable absolue. Et en fait, Picard veut absolument que Dreyfus aille au combat à ce moment-là, et Dreyfus lui est très prudent. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'il peut pas faire le tour de France des conseils de guerre, et qu'à un moment, la porte lui sera fermée, et qu'on ne peut pas demander une révision perpétuelle. Et ce sera d'ailleurs un motif qui sera refusé par la Cour de cassation en 1906 lors de la réhabilitation. Et en fait, Picard veut l'amener au combat, avec en plus ce reproche qui lui est fait d'être une sorte d'informateur de Waldeck-Rousseau, parce qu'à ce moment-là, Picard et Laborie sont contre Waldeck-Rousseau et pensent que Waldeck-Rousseau prépare en fait un certain nombre de catastrophes, dont l'hégémonie d'Israël.
Ah, alors, là on en vient justement à l'antisémitisme de Picard.
Un mot sur ce que vient de dire Philippe Auriol. Moi je suis frappé, c'est presque romanesque la position de Philippe Auriol de ce point de vue-là. Quand Picard ne fait pas, il est lâche, il est timide. Quand il fait, c'est pour de mauvaises raisons. Et quand il s'oppose à ses chefs, c'est seulement pour lui. Alors autant rester chez soi. Moi je pense qu'il ne faut pas gommer le rôle de Picard. J'en fais pas un héros, je m'en suis expliqué dans un article à Inflexion, la revue de l'état-major des armées. C'est pas un héros ni une victime, Hannah Arendt l'a exprimé très bien. Mais il faut pas le faire basculer comme ça d'un côté, dès qu'il prend la parole, en transformant ses dires, en les réinterprétant.
Ah mais je ne transforme pas les dires, je travaille sur les... Vous êtes historien, monsieur.
Vous les mettez, mais je respecte, et tout le monde sait que vous êtes historien. Mais l'historien peut se permettre des interprétations qu'on n'est pas obligé de suivre. Et deuxièmement, je voulais dire que ce débat de Picard, qui n'est pas d'accord sur la grâce et l'amnistie, n'est pas un débat méprisable. N'importe quel juriste sait que la grâce ne vous rend pas innocent. Donc, d'ailleurs...
L'amnistie vaut pour tout le monde.
Et l'amnistie vaut pour tout le monde et va éponger tous les reproches possibles pour les généraux. Donc, moi, je trouve au contraire que c'est un très beau débat. Et alors, c'est vrai que Picard... Ben, vous ne l'aviez pas dit, je préfère insister là-dessus. Clémenceau, excusez du peu, Picard et d'autres disent qu'il faudrait aller jusqu'au bout. En même temps, la famille de Dreyfus, on le comprend bien, dit il faut d'abord que Dreyfus vive et qu'il soit gracié, qu'il reparte pas.
C'est ce que Picard appelle la politique de la peau sauve.
Eh ben, je trouve qu'elle est respectable,
elle est pas méprisable,
cette politique.
Bien sûr.
Et peut-être que, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je suis très attentif à ça. Le débat était tout à fait justifié. Alors, on peut trouver que Picard se voile dans l'intransigeance, etc. Mais après, c'est une interprétation.
Mais diriez-vous, Christian Vigouroux, que Picard, l'un et l'autre, était antisémite et qu'il l'est resté tout au long de l'affaire et que c'est même son antisémitisme qui l'a conduit toujours à mettre la famille Dreyfus à distance, comme si l'affaire, au lieu de pulvériser son préjugé, avait renforcé son préjugé. Christian Vigouroux.
Là, il faut que je dise en une seconde que, avant d'écrire ce livre, en 2008, quand personne ne parlait de Picard, je me suis arrêté sur l'antisémitisme. J'en ai parlé une vingtaine de pages avec des documents qui n'avaient pas été publiés. Et je me suis dit, si vraiment c'est un antisémite, je passerai pas 3 ans de ma vie avec des recherches dans toute la France et à l'étranger pour écrire ce livre. Et ma conclusion, telle que je la donne, c'est que il faut pas lire les réflexions de Picard, et Philippe Auriol verse des pièces plutôt mauvaises sur la question de l'antisémitisme de Picard, mais il faut pas regarder les choses de l'antisémitisme de Picard. Il avait des relents d'antisémites, et même quelquefois des expressions que je qualifie dans mon livre de nauséabond.
Oui, à propos d'un article dans la Gazette de Lausanne. À propos d'un article,
il me paraît la chose la plus grave.
En 1906.
C'est pas une expression, c'est juif, etc. C'est vraiment une construction où il dit les juifs ont plus profité dans leur carrière que les autres militaires. Et ça c'est inadmissible. Mais je dis que celui qui sait qu'il a des penchants antisémites, c'est la lettre sur Rembrandt où il dit je m'étais intéressé à Rembrandt, mais il était juif, mais il faut dépasser ses préjugés, une lettre de prison. Je pense que celui qui sait qu'il est antisémite, mais les dépasse, arrive à quelque chose qu'il ne faut pas mépriser. C'est le chapitre 4 des Maximes des Pères. Quel est le véritable héros? L'homme qui se domine surpasse celui qui conquiert une ville. La sagesse judaïque, là, n'est pas totalement erronée.
Oui, sans doute.
Philippe Auriol.
Sans doute. Et c'est vrai qu'on a effectivement cette lettre-là. Maintenant, à côté de ça, quand, par exemple, il dit qu'il ne veut plus aller au dîner des Trois Marches parce qu'il a l'impression d'être dans une synagogue, quand il compte le nombre de journalistes juifs dans un journal pour expliquer qu'il ne le lit pas parce qu'il y a 17 juifs, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça devient absolument obsessionnel. Et ça va très, très loin. Là, je vais publier dans très peu de temps un manuscrit inédit de Laborie qui est tout à fait passionnant, dans lequel on voit Laborie et
l'avocat Zola, oui. Et l'un des deux.
Voilà, parce que et dans lequel, et c'est paraphé à chaque fois, j'en cite quelques extraits, mais j'ai pas cité de passage, c'est paraphé par Picard qui est d'accord, où à un moment, Laborie raconte ce truc absolument incroyable, je l'ai pas amené, mais je vous le fais de mémoire. Il est très très mécontent parce qu'il y a aussi cette dimension qui est très importante, c'est qu'il ne supporte pas la manière dont Reynac, parce que finalement, la manière qu'est la mienne de présenter Picard est assez proche, en fait, de celle de Reynac. Avec juste des documents nouveaux. C'est-à-dire un regard qui est un regard un peu froid sur ce qu'est un personnage, etc. Et qui est, c'est pas une histoire de jugement. C'est pas ça l'histoire, en fait. Mais c'est l'histoire de juste revenir à une histoire qui est une histoire historienne. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est, quand on voit ce document-là, c'est qu'en fait, Laborie explique que, il n'avait jamais lu La France juive. On est en 1903, c'est-à-dire 3 ans avant la libération. Et en fait, en vacances, il est retombé par hasard sur ce livre et il le lit. Et il dit, mais c'est extraordinaire, en fait. C'est-à-dire que Drumont a tout compris. Et Drumont est probablement un des penseurs les plus importants de ce siècle. Il a compris, et là Picard paraphe la chose, qu'aujourd'hui, les Juifs sont un État dans l'État, et là on voit tout ce que Maurras va développer à ce moment-là et va développer par la suite, et que leur but est la domination du pays dans le but, voilà. Et quand par exemple...
Ça Picard, c'est quand même pas Picard qui le dit, ça.
Ça c'est Laborie, mais c'est Laborie. Paraphé par Picard qui dit à la fin, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mon cher Laborie.
Alors c'est un document étonnant. Là, vous êtes dans l'histoire historienne, mais moi, je ferai pas ce procédé. Attaquer quelqu'un parce que Laborie a écrit.
Mais je
non, ça,
mais
ça, pas... ça me paraît vraiment mais le
c'est
fusil à tirer dans
mais
les coins.
C'est pas attaqué, c'est paraffé par Picard. Je vous montrerai le document qui est passionnant.
Mais je prends en compte vos pièces quand elles sont signées par Picard, mais je trouve que vous avez utilisé des procédés. Dupont a dit ceci, mais Duroy l'a approuvé. L'a approuvé comment? Enfin, je ne souscris pas à
toutes
ça.
Toutes les lettres citées de Picard sont de
ce
Picard.
Ce que je voulais dire sur par rapport au document, parce que c'est très important, c'est l'honneur d'un homme. Que... Et j'ai abordé cette question et j'ai estimé, pour les raisons que je viens de citer, que Picard avait surmonté les choses et savait ses tendances et a lutté pour un officier dans l'esprit de Picard qui était un laïc, qui refusait quand il était en prison de remplir la fiche sur les religions, qui était un fils de l'Alsace, il écrit à un moment donné dans les enterrements de l'Alsace, le prêtre, le pasteur et le rabbin suivaient ensemble le catafalque. Donc Picard a des relents antisémites, mais je voudrais que les lecteurs se souviennent quand même que il y a un article de Gilles Candard sur Jaurès et les expressions qu'il utilisait, le frelon juif, donnons-lui le miel français, que Clémenceau a parlé de Youpin de Sacristie, et me croirez-vous si vous lisez Zola, le grand Zola, dont les lettres à Alexandrine ont paru à Gallimard, ben voilà ce qu'il dit, le 25 novembre 97, les juifs naturellement me remercient aussi, catégorie. Le 22 novembre 99, ce monde de la haute juiverie qui m'inquiète un peu, je m'y sens mal à l'aise, je préfère couper toutes les relations. Le 23 novembre 99, je connais pas du tout Monsieur X. Quant à Madame Moser, je flaire une juive.
Monsieur Vigouroux, vous pouvez pas me reprocher, en fait, d'utiliser un texte de Laborie qui est paraphé par Picard, qui donne son accord pour parler de l'antisémitisme de Picard et d'essayer de l'évacuer en allant chercher des citations de Zola et de Jaurès. C'est-à-dire que ça ne change rien, en fait.
Si, ce que ça peut changer,
je dis simplement,
c'est un climat général.
L'antisémitisme, je disais il n'y a pas longtemps un article qui disait que Picard était peut-être un peu antisémite, mais on n'est pas un peu antisémite ou très antisémite, on est antisémite, en fait.
Oui, mais il ne faut pas non plus faire de procès rétrospectif.
Voilà. Mais ce n'est pas un procès rétrospectif, voilà. C'est simplement poser cette
aujourd'hui,
réalité.
Aujourd'hui, l'antisémitisme nous apparaît comme l'horreur absolue, même quand on ne veut pas voir la forme actuelle qu'il prend, parce que celle-ci déroge au schéma de l'antiracisme officiel, mais c'est une parenthèse. À l'époque, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a l'impression que toute la société baignait dans le préjugé anti-juif, même... Ouais. Les Dreyfusards, qui sont allés très loin dans la défense de Dreyfus, parce que vraiment Zola a été extrêmement courageux.
Je suis d'accord, monsieur Vignogrod, qu'on va pas regarder avec une paire de lunettes qui a vu la Shoah. On est bien d'accord.
Vous êtes d'accord.
Voilà, quand Bernard Lazare, par exemple, est attaqué comme antisémite et qu'il répond cette phrase aujourd'hui absolument incroyable qui est « Je ne peux pas être antisémite, puisque je suis sémite. En revanche, comme je suis israélite, je suis anti-juif », ça permet de comprendre effectivement que l'antisémitisme de la fin du 19e n'a pas la même valeur et la même nature.
Et le premier livre de Bernard Lazare a été republié par les négationnistes de la vieille taupe.
Parce que
Bernard Lazare lui-même a changé dans sa vie. Et avant de devenir, comme l'a montré Peggy admirablement, un prophète d'Israël, un athée ruisselant de la parole de Dieu.
La seule chose que je voulais dire, en citant ces auteurs qui indiquent un climat, sans parler du socialisme français, dont on trouve des dérapages antisémites nombreux, c'est simplement qu'il faut lire ce que fait Picard avec le temps de l'époque. Et d'autre part, j'estime qu'on n'a pas à apporter des pièces en faisant de l'antisémitisme par ricochet. Si ce n'est pas toi, c'est ton frère Laborie.
Si vous voulez, on est d'accord, si vous voulez, monsieur Vigouroux. Mais maintenant, à côté de ça, je cite un certain nombre de lettres qui sont des lettres de Picard.
Absolument.
Qui sont des lettres intimes.
Absolument.
Voilà, et quand Henriette Psicari, par exemple, raconte que, vous le citez aussi dans votre livre, que...
Elle a été troublée.
Elle était vraiment troublée et que ça lui devenait insupportable, comme elle le raconte aussi dans la vidéo, de voir cet homme dont le front était chargé de secrets militaires et pour son antisémitisme. Enfin voilà, maintenant, c'est pas faire un jugement, c'est tout simplement placer les choses et ça pose des questions qui sont intéressantes. Et moi, un chevalier blanc m'intéresse peu, surtout quand il ne correspond pas à la réalité. Maintenant, cet homme-là, dans toute son ambivalence, dans toutes ses ambiguïtés, dans ses allers-retours, etc., devient, moi, je trouve, absolument passionnant. Et ça aurait fait un film prodigieux
C'est pour ça que je l'ai ressuscité en 2008, avec ses ambiguïtés.
Oui, et je dois dire que l'antisémitisme de Picard n'est pas masqué dans le film de Polanski, puisque
il s'est vite réglé lors de la dégradation de
Dreyfus.
Il est traité de manière intéressante par ce face-à-face entre Dreyfus et Picard, qui dit « j'aime pas les juifs ». Donc on voit qu'il est conscient de son antisémitisme, mais ça ne doit interférer en rien avec mon activité. Je crois que c'est assez bien vu de la part de
Polanski. Mais qui est à côté de ça, une création d'un romancier et d'un scénariste, on est bien d'accord.
C'est une représentation.
Parce que cette scène n'est pas du tout la même, et moi elle me pose un vrai problème cette scène, parce que dans l'affaire Dreyfus, en fait, il y a Dreyfus, et j'aimerais bien aussi, et c'est un de mes combats avec Vincent Duclerc pour qu'on le remette à sa place, cette scène, en fait, est pour moi rigoureusement insupportable, parce qu'en fait c'est la transposition d'une scène qui n'a rien à voir et qui présente juste un Dreyfus vindicatif, revendicatif, désagréable, etc.
Alors justement,
etc.,
d'ailleurs,
qui ne correspond pas à ce qu'était Dreyfus.
Ce qui est intéressant dans votre livre, en effet, c'est, je suis pas sûr que ce soit un regard froid, c'est-à-dire vous déboulonnez une idole qui n'était plus une idole puisqu'elle était tombée dans l'oubli, mais vous le faites animer par une volonté apparemment paradoxale, Philippe Auriol, de réhabiliter Dreyfus. Comme si la victime de l'affaire était aussi un personnage, déconsidéré. Et d'ailleurs, il l'a été pendant l'affaire. Il l'a été par Léon Blum, qui au début de ses souvenirs dit il n'avait nulle affinité avec son affaire, nulle vocation pour le rôle dont le chargeait un caprice de l'histoire. S'il n'avait pas été Dreyfus, aurait-il même été Dreyfusard? Et Peggy lui-même est très sévère. Brusquement revêtu malgré lui d'une énorme magistrature, d'une magistrature capitale, de la magistrature de sa victime, il s'en est lamentablement tiré.
Voilà, et Clémenceau parle d'un marchand de crayons, il dit qu'on le mange.
Et vous voulez dire, en fait, si un héros,
Dreyfus, non, il a été à la fois le héros et la victime.
Non, je sais pas ce qu'est un héros, c'est pas mon problème en fait. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais l'idée c'est aussi de remettre Dreyfus dans son histoire comme j'ai essayé auparavant de remettre Bernard Lazare. Parce que, et ça c'est toujours cette question d'histoire mémorielle, vous disiez effectivement, là aujourd'hui on connaît Bernard Lazare, Picard a été oublié, et le livre que vous avez fait est bien évidemment indispensable, nous sommes bien d'accord, il fallait le ressortir. Mais des Dreyfusards, là moi depuis très longtemps je travaille sur un dictionnaire qui va être un truc absolument énorme, par exemple il y a un Dreyfusard absolument colossal qui a écrit plus de 1000 articles qui sont d'une beauté absolue, qui s'appelle Pierre Bertrand, personne ne sait qui est cet homme aujourd'hui. Et ça c'est normal, parce qu'on fait l'histoire à travers les grandes figures. Oui. Voilà, et l'idée c'est aussi de redonner sa place à chacun. Et donc voilà, mais Picard est intéressant, mais l'idée c'est pas de dire que Picard était un sale type antisémite, etc. L'idée c'est de dire voilà quel était le bonhomme en fait.
On a en commun d'avoir sorti des pièces inédites sur l'antisémitisme de Picard, et simplement on a une interprétation ensuite différente de son action.
Oui, parce que pour moi il explique beaucoup de choses.
Quant au Dreyfusard, permettait au président de l'Institut Pasteur que je suis de saluer les intellectuels scientifiques qui n'ont pas été tellement évoqués aujourd'hui, ouais. Et notamment Émile Duclos, qui est pour moi une référence absolue, qui était le successeur de Pasteur et qui a écrit des lettres superbes en faveur de Picard pour qu'il sorte de prison et en faveur de Dreyfus pour qu'il ait la reconnaissance qu'il doit avoir.
Et un dernier mot sur Picard, je le tire de l'article que Christophe Prochasson lui a consacré dans le dictionnaire L'affaire Dreyfus, publié autrefois chez Flammarion. C'est très intéressant, il était extrêmement cultivé, polyglotte, et c'est chez son ami Gustave Mahler qu'une dépêche lui apprendra en 1906 sa nomination comme ministre de la guerre. Et Prochasson termine: Picard aurait été un pur intellectuel Dreyfusard s'il n'eût été un militaire. Rien ne manquait à sa panoplie, ni l'adhésion à la Ligue des droits de l'homme avec laquelle il rompit en 1901, ni même l'abonnement au cahier de la quinzaine. Vous le saviez, ça, qu'il était...
Oui, tout à fait, oui. Voilà.
Bien. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. C'était une discussion absolument passionnante. Et je renvoie donc à vos livres. Philippe Auriol, Le faux ami du capitaine Dreyfus, Picard, l'affaire et ses mythes, chez Grasset, et Christian Vigouroux, Georges Picard, Dreyfusard proscrit ministre, La justice par l'exactitude, chez Dalloz. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet.